Radio Okapi. Le journal Belinda Bousouma à la présentation.
Lueur d'espoir pour les enseignants, leurs revendications salariales sur le point de trouver satisfaction, cela grâce à l'implication du président de l'Assemblée nationale. Après des échanges samedi avec une délégation du CIECO, Vital Kamerhe réappelle à lever la grève pour ne pas mettre en souffrance les élèves. Lutte contre les embouteillages à Kinshasa. Désormais, la présence des policiers dans les différentes intersections, c'est l'une des mesures prises au Conseil des ministres de vendredi dernier. Elle entre en vigueur cette semaine, annonce la ministre de la Culture et Arts, vous l'entendrez. Et puis, déconstruction de la théorie de la désobéissance civile. C'est le titre de l'ouvrage publié par un activiste du Nord Kivu. Ici, l'auteur explique les raisons qui poussent la population à la désobéissance civile. Luther Kabuyaya, l'auteur de cet ouvrage, est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Les revendications salariales des enseignants sur le point de trouver solution, cela grâce à l'implication du président de l'Assemblée nationale qui appelle le CIECO à lever la grève des enseignants afin de ne pas mettre en souffrance les élèves. Vital Kamerhe a eu samedi une séance de travail avec une forte délégation du syndicat des enseignants du Congo CIECO, conduite par Cécile Chiombo, secrétaire générale de cette structure, et les députés nationaux élus du Congo central, Jonas Tundu Tundu et Maneno Riziki. Les échanges ont tourné autour de la révalorisation de la question de l'enseignant congolais qui fait face aujourd'hui aux multiples problèmes qui ne lui permettent plus d'exercer décemment et dignement son travail. Cécile Chiombo s'exprime au micro de Michel Kifindangoy.
L'honorable président Vital Kamerhe a compris facilement ce qui se passe à travers le système éducatif congolais. Il prend la question en charge et renvoie à l'ECOFIN ensemble avec les syndicats qui va devoir envoyer des délégués pour qu'ils puissent en discuter aux enseignants qui se retrouvent en grève. Aujourd'hui, nous avons une réponse qui nous fait plaisir afin que tous nous puissions regagner l'école sur toute l'étendue de la République. Nous acceptons de poser nos armes puisque la réponse qui est arrivée est une réponse que nous considérons être fidèle.
Tout en saluant la bravoure et le sacrifice des enseignants congolais, le président de l'Assemblée nationale a invité les experts du CIECO à travailler avec la Commission économique et financière dans l'examen approfondi du projet de loi de finances 2025, occasion pour le CIECO d'être au cœur des discussions sur l'affectation des fonds publics et sur la table des décisions au niveau du pouvoir législatif. Il faut noter que cet exercice sera prolongé au syndicat des médecins et l'intersyndicale des agents de la fonction publique qui pourront aussi être invité en séance de travail à la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen de la loi de finances 2025. Du côté du Kwilu, la grève des enseignants des écoles publiques de la province éducationnelle Kwilu 1 est suspendue, décision prise lors de l'assemblée extraordinaire qui a réuni le comité provincial et urbain de l'intersyndicale vendredi à Bandunduville. Par conséquent, élèves et enseignants sont appelés à reprendre le chemin de l'école dès ce lundi pour la reprise effective des cours. Appel lancé vendredi à Radio Kapi par le président de l'intersyndicale des enseignants du Kwilu 1, Joseph Fitilambe, joint par Irène Boma.
Par rapport à toutes ces déclarations, le gouvernement a pu trouver solution à 30%. Les 30% nous mènent à l'heure qu'il est, nous avons le statut particulier d'un enseignant. Le salaire n'est plus le patrimoine de l'école, le salaire devient le patrimoine d'un enseignant. Sénat était un agent temporaire, il est devenu l'agent des carrières. Nous, au niveau de la province, on a échangé avec le gouvernement provincial et par rapport aux déclarations au niveau national, il y a quand même des solutions que nous avons essayé un peu de trouver pour mettre l'enseignant de son assiette. L'Assemblée avait une divergence de mots. C'est comme ça que le comité provincial et le comité urbain de l'intersyndicat se sont siégés. C'est comme ça que nous avons pu raisonner de suspendre la grève jusqu'à nouvel ordre. C'est comme ça que nous avions dit ceci. La grève est suspendue. Que le lundi 21, tout le monde regagne son lieu de service pour aller travailler. Les parents peuvent envoyer leurs enfants à l'école dès ce lundi aux enseignants qui reprennent le lieu de service dès ce lundi. Nous étions dans une grève active de 45 jours. En dehors 60 jours, l'UNESCO va déclarer l'année blanche pour la province du Kwilu. Qu'est-ce que la bénéfice de ces enfants-là?
Par ailleurs, au Nord Kivu, des centaines d'écoliers déplacés en arrêt scolaire dans le site de Boulengo reprennent désormais le chemin de l'école. C'est grâce à une dizaine de salles de classe équipées des bancs construites en leur faveur avec le financement propre du sénateur Mumbere Machozi Papi. La remise de ces infrastructures aux responsables scolaires de l'épée Boulengo a eu lieu vendredi à la grande satisfaction des élèves, parents et responsables scolaires. Denise Lukesso, reportage.
La construction de cet ouvrage est un ouf de soulagement pour ses parents déplacés.
Plus de 12 000 écoliers qui venaient étudier à l'école primaire de Boulengo. Ils étudiaient dans des conditions difficiles parce qu'il y a de ces enfants qui se mettaient debout pendant qu'ils manquaient là où ils peuvent s'asseoir. Il y a aussi de ces enseignants qui prestaient pendant 2 heures seulement. Chaque enseignant sort avec des enfants pendant 2 heures, l'autre entre. Et maintenant, nous avons reçu de telles réponses. Ça nous avantage beaucoup comme nous venons de recevoir 10 heures de classe pendant que nous avions beaucoup d'élèves qui ne fréquentaient pas l'école. En tout cas, nous sommes content de cette aide. Mais les besoins sont encore multiples.
Pour l'assistant parlementaire du sénateur Mumbere Machozi Papi, cette infrastructure vient répondre aux besoins urgents exprimés par les déplacés lors du passage des sénateurs dans ces sites en septembre dernier. Un autre besoin pressant, c'est l'approvisionnement en médicaments, reconnaît le docteur Clovis Cavalia.
Nous allons aussi plaider auprès du sénateur pour que peut-être qu'il voit dans la mesure du possible de ses moyens, si possible venir appuyer l'aspect médicaments parce que c'est quand même un aspect qui est pressant où on sent que les structures sanitaires sont en manque des produits médicaux.
Signalons qu'un hangar sanitaire servant de morgue provisoire équipé de 3 lits et de la lumière solaire construit par le sénateur Machozi a été également remis aux déplacés de ces sites. Goma, Denise Lukesso, Radio Kapi.
Et à propos de la grève du personnel de santé, un accord a été trouvé samedi entre le banc syndical de la santé et le gouvernement au sujet des revendications du personnel de ce secteur qui a déclenché une grève depuis mardi 15 octobre. Dans un communiqué publié samedi, le syndicat national des médecins SINAMED rapporte qu'après des heures d'intenses discussions entre les deux commissions, gouvernementales et syndicales, un accord a finalement été trouvé ce même samedi en fin de soirée. Les deux parties étaient en discussion depuis le 13 octobre. À la suite des échanges fructueux, le gouvernement s'engage à plusieurs actions concrètes pour répondre aux attentes des professionnels de la santé, affirme le SINAMED. On écoute à ce sujet Dr John Singa Luamba, secrétaire général du SINAMED, joint par Étienne Lissumbu.
Donc le gouvernement finalement s'est engagé à prendre en considération dans la rémunération les grades des médecins qui ont été promus par le Premier ministre depuis 2019 et par le chef de l'État depuis 2022. Ça fait 5 ans et 2 ans que ces médecins-là n'ont pas bénéficié de leur rémunération à ces grades-là. Deuxièmement, le gouvernement a accepté d'aligner au mois d'octobre 800 nouveaux médecins. Le gouvernement s'est engagé à allouer, le deuxième palier de transport et logement tel que nous l'avons défini en 2023. Donc ça représente à peu près 35% du montant. Et évidemment, le gouvernement a aussi accepté à partir du mois de janvier 2025 de pouvoir payer le dernier palier qui représente 30%, mais aussi de prendre en considération les grades des médecins qui sont affectés dans les FARDC, dans la police nationale, dans l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi que à la recherche scientifique.
Je vous le disais en titre, la présence des policiers dans les différentes intersections figure parmi les mesures prises au cours du Conseil des ministres de vendredi dernier pour remédier au problème des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres lu par la ministre de la Culture et Arts, Yolande Elébé, ces mesures devraient entrer en vigueur à partir de cette semaine. On écoute la ministre de la Culture et Arts dans cet extrait proposé par Alain Rongmouchinj.
56 carrefours dont l'engorgement empêche la fluidité de la circulation ont été identifiés. Pour y remédier, les mesures suivantes ont été proposées. 1. La présence des policiers dans les différentes intersections. 2. Prévoir des routes dédiées à sens unique selon l'affluence des véhicules sur les principales artères. 3. La Commission nationale de prévention routière et l'Office des voiries et drainages ont mené une étude sur la manière de procéder à une circulation alternée qui sera implémentée dès la semaine prochaine. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, les responsables des services précités ont été invités à éclairer le Conseil sur les modalités de la mise en œuvre de ces mesures.
Nord Kivu, dans la ville de Butembo, plus de 120 maisons ont été emportées par l'érosion dans la cellule Liambo, commune de Bulengera. Les victimes de cette catastrophe, autrefois propriétaires des maisons, se retrouvent aujourd'hui locataires. Le chef du dit quartier appelle les experts à l'aide pour éviter d'autres cas de destruction d'habitations liées à l'érosion. De son côté, la protection civile appelle au respect des normes urbanistiques avant toute construction. Guylaine Kassassia nous fait le point.
C'est depuis environ une année que des têtes d'érosion ont fait leur apparition dans ces quartiers, explique Isaac Mouindovisiri, chef de base locale. Malgré la mise en œuvre des différentes techniques anti-érosives, rien n'a marché, poursuit-il.
C'est plus de 21 parcelles qui sont touchées par ces érosions. Les habitants se sont déjà déplacés et deviennent des locataires dans de petites pièces des voisins. À notre niveau, nous avons essayé d'y placer des bambous, mais sans succès. Que les spécialistes en gestion des catastrophes viennent nous apprendre comment gérer cette situation.
Pour prévenir d'autres catastrophes de ce genre, la protection civile de la ville de Butembo appelle au respect des normes urbanistiques avant de démarrer tout chantier de construction. César Matoumou.
Ce que nous devons faire dans le cadre de la prévention, c'est de respecter les normes urbanistiques de construction. Parce que quand on autorise à la population de construire à des endroits à forte pente, vous imaginez la suite. Donc, il y a les endroits où nous pouvons prévenir de tels phénomènes, mais là où ces phénomènes existent déjà, nous devons être prêts à prendre des décisions courageuses qui pourront même arriver à la délocalisation de la population.
Selon la même source, plusieurs quartiers de la ville de Butembo sont menacés par des têtes d'érosion. Beni Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Santé, lutte contre la propagation de l'épidémie de la variole du singe. Le Haut-Katanga n'a enregistré aucun cas jusque-là. Pour cela, le ministre provincial de la Santé invite toute la population à observer les mesures barrières et à être vigilante pour préserver la province. Le ministre Joseph Sambibulanda est au micro de Jean Gando.
Depuis le début de l'épidémie, la province a enregistré 54 alertes et prélevées, envoyées à l'INRB. 52 résultats sont négatifs et 2 résultats indéterminés, ce qui fait que à ce jour, la province n'a aucun cas de Mpox confirmé, ce qui prouve que la stratégie mise en place fonctionne bien et nous appelons encore une fois de plus à toute la population, à tous les intervenants, de redoubler d'efforts pour sécuriser la province contre l'envahissement de cette maladie. Déjà, les provinces voisines comme la Lomamie, le Tanganyika ont déjà notifié des cas. Merci encore une fois de tenir et de sensibiliser sur le Mpox.
Autre nouvelle, cela fait 3 mois depuis que le ministre congolais du commerce extérieur a décidé d'interdire l'importation des bières et autres boissons gazeuses en RDC, une mesure qui, selon Julien Paluku, devrait stimuler la consommation des produits locaux et contribuer à la création d'emplois. Cette mesure avait suscité des réactions sur presque l'ensemble du pays. Aujourd'hui, 3 mois après, comment la mesure s'applique-t-elle dans certaines villes de la RDC? Radio Capi vous propose une série de reportages à ce sujet durant cette semaine. Voici pour commencer les grandes lignes de la décision du ministre avec Emmanuel Elamejiwa Wakabedi.
L'arrêté du ministre du Commerce extérieur a été rendu public au mois de juillet dernier. Il suspend temporairement l'importation de bières et boissons gazeuses en RDC pour une période de 12 mois. Dans sa motivation, le ministre Julien Paluku dit vouloir protéger l'industrie locale et encourager la production nationale. Le gouvernement congolais entend renforcer l'économie nationale et promouvoir les produits fabriqués en RDC. Une façon de stimuler la consommation de produits locaux, contribuer ainsi à la création d'emplois et amélioration des conditions de vie des producteurs locaux. En réaction, les opérateurs économiques de l'Ituri exigeaient des dérogations car, selon eux, les industries brassicoles de la RDC ne couvrent pas les besoins des consommateurs de cette région. Même réaction du côté du Katanga. La société civile de Kasumbalesa estimait que la population locale vivait du commerce transfrontalier. Signalons qu'en dehors de bière, le même arrêté ministériel interdit aussi l'importation du ciment gris, mais uniquement dans les zones ouest et sud-est du pays.
Actualité internationale.
Nous sommes au Mozambique. L'avocat de l'opposant Venancio Mondlane a été abattu avec un membre de son parti à Maputo, la capitale. Cela s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi 19 octobre. Venancio Mondlane s'était présenté à l'élection présidentielle du Mozambique au nom du parti politique Podemos. L'avocat Elvino Dias a été tué alors qu'il s'apprêtait à déposer une plainte pour fraude lors de ces élections. Sur les réseaux sociaux, l'homme disait être inquiet pour sa sécurité. Notez que le Mozambique est en attente des résultats du scrutin du 9 octobre où 17 millions d'électeurs étaient appelés à élire notamment leur nouveau président.
L'invité.
Déconstruction de la théorie de la désobéissance civile, c'est le titre de l'ouvrage publié par Luther Kabuyaya, un activiste du Nord Kivu. Il explique les raisons qui poussent la population à la désobéissance civile. Dans cette interview à Radio Kapi, l'auteur encourage le pouvoir public à respecter les règles du contrat social afin d'éviter de pousser la population à la désobéissance civile. Luther Kabuyaya est avec Michel Kifindangoy.
Luther Kabuyaya, bonjour.
Bonjour Michel.
Vous êtes auteur du livre « Déconstruction de la théorie de la désobéissance civile ». Qu'est-ce qui vous a motivé d'écrire sur la désobéissance civile ?
Ce qui m'a motivé à travailler sur la désobéissance civile, c'est que tout est parti en moi de mon licenciement pour insubordination. Alors, je me suis interrogé sur le caractère fautif ou non des actes d'insubordination. Et donc, cela m'a amené à travailler au fil du temps, à aborder d'autres questions de la désobéissance, puisque la subordination, c'est de la pure désobéissance. Mais désobéissance fautive ou non fautive, voilà la question que j'ai abordée. Hein.
Et qu'est-ce que vous entendez par la déconstruction de la théorie de la désobéissance civile ?
La déconstruction de la théorie de la désobéissance civile, c'est que je suis parti de la définition de la désobéissance civile qui est considérée comme étant un acte contraire à la loi. Et c'est sur cet aspect que je me suis focalisé. Est-ce que l'acte de désobéissance civile est véritablement un acte contraire à la loi ? Et pour analyser cette question, j'ai réfléchi sur les fondements de l'acte de désobéissance civile. La plupart d'actes de désobéissance civile sont fondés sur soit la défense de droits de l'homme, soit la défense de l'intérêt général, parfois sur le droit de se libérer de l'oppression. Ces règles sont clairement posées comme les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux.
À votre avis, qu'est-ce qui pousse à la désobéissance civile et comment l'État fait-il face à ce phénomène de désobéissance civile ?
Dans la plupart des cas, c'est le non-respect de principes de coopération sociale qui pousse à la désobéissance civile. C'est-à-dire, dans la société, il y a classe gouvernante, donc la classe gouvernante et les citoyens. Et entre classe gouvernante et citoyens, il y a des règles de coopération qui doivent être respectées. Ces règles sont cristallisées dans les instruments juridiques, notamment dans la Constitution. Donc, le peuple donne le pouvoir à la classe gouvernante et à charge la classe gouvernante de protéger l'intérêt général. Et lorsque la classe gouvernante détourne le pouvoir à son profit, à ces moments-là, il y a lieu de conclure que les règles et les coopérations sociales ne sont pas respectées et voilà ce qui peut pousser à la désobéissance civile. Mais il y a aussi le cas d'inadéquation de règles édictées par la classe dirigeante l'inadéquation avec la réalité sociale. Cela peut aussi pousser à la désobéissance civile. Face à ça, l'État, dans la plupart des cas, actionne sa machine pénale et pour réprimer les actes de désobéissance civile, notamment le code pénal, le code pénal militaire aussi et bien d'autres lois.
Existe-t-il conformément à la loi une désobéissance légitime ?
De notre loi, il existe une désobéissance légitime. Nous prenons ce que prévoit notre Constitution à l'article 67 et où il est dit, où on prévoit l'obligation de protéger l'intérêt général. Le Congolais doit protéger l'intérêt général. Or, si parcourez la littérature sur les lanceurs d'alerte, ils revendiquent la défense de l'intérêt général. Mais aussi les journalistes, ce que dit tout Congolais doit protéger l'intérêt général. Le journaliste, en agissant, il doit aussi protéger l'intérêt général. l'intérêt général. En plus, notre constitution dit que nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Il y a des dispositions sur lesquelles on peut se fonder pour soutenir qu'il existe une désobéissance légitime.
Dans quelle mesure la situation de la population de l'Est de la République démocratique du Congo déchirée par la guerre peut constituer une raison de désobéissance légitime?
Oui, la situation de la population de l'Est est très très compliquée. C'est une situation d'insécurité et cette situation nous fait penser à ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais aussi à la Constitution. Tous ces instruments font de la protection des droits de l'homme un devoir pour l'État. Et lorsque l'État ne protège pas les droits de l'homme, la protection des droits de l'homme implique pour l'État l'obligation de prévenir le violation des droits de l'homme, mais aussi l'obligation de veiller à ce qu'une réparation adéquate soit faite en cas de violation de droits de l'homme.
Monsieur Luther Kabuyaya, je vous remercie.
Voilà, notre invité est activiste au Nord Kivu. Il répondait aux questions de Michel Kifindangoy. C'est la fin de ce journal, supervisé par Alain Rongmouchinj, Mimi Kindo à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.